voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission radio La Voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour pas à pas vivre le changement. J'ai rencontré Nance, chez lui dans la Drôme. Peut-être vous aussi l'avez-vous déjà vu en train de faire du stop, ou peut-être dans l'émission Nu et culotté qu'il réalise avec son ami Moutz. Nance fait des choix étonnants mais conscients, comme celui de partir nu et sans argent à l'aventure pour aller réaliser un rêve. Quand il ne voyage pas, Nance vit dans un habitat collectif. Rencontre avec Nance, qui incarne la simplicité volontaire.
Quand j'étais petit, à l'âge de 7 ans, un jour je revenais chez moi, c'était en hiver, j'étais au CP, et je reviens chez moi, et la maison que mon père avait construite était en train de brûler devant mes yeux. Donc on était toute la famille en train de regarder la maison brûler avec les voisins qui étaient là, les pompiers qui essayaient de l'éteindre et tout ça. Suite à ça, on s'est retrouvés à poil, toute ma famille et moi, sans rien. On n'avait plus d'objets, plus de vêtements, plus rien. Et en fait, notre grande surprise s'est déployée dans le village et dans la ville alentour, une solidarité extraordinaire où les villageois se sont collectés pour nous amener des vêtements, pour nous amener des objets, pour reconstituer notre socle matériel pour pouvoir vivre. Et moi, ce jour-là, je crois bien avoir enregistré en fait que dans toute situation en fait d'urgence, la solidarité et les valeurs humaines se réveillent. Et pour moi, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, clairement. Et puis après toute ma vie, je crois que j'ai recherché ce moment-là où le besoin de se relier à l'autre est brûlant comme un incendie. Moi, j'adorais après faire du stop pour cette même raison, quoi. Un stop, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quand est-ce qu'on arrive, et donc on a besoin de se fier à l'autre et de faire confiance à l'autre et de réveiller cette solidarité.
C'est intéressant cette expérience où partir de rien, on se reconstruit, et c'est pareil dans toutes les expériences que tu mènes, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça. Ouais, parce que plus tard, avec mon ami Moutz, on décide en juillet 2010, de faire une expérience. De partir sans argent et sans vêtements depuis la nature pour aller après réaliser un rêve dans la civilisation. Et c'est un peu cette même chose, quoi, de tout à coup de ne plus rien avoir. Comme si demain matin tu te réveilles et puis t'as plus rien. Tu sais, souvent on fait ce rêve-là d'arriver au travail en pyjama ou tout nu. Là, c'est un peu ça, mais le vivre. Et ouais, de voir est-ce que vraiment c'est la fin du monde, est-ce que vraiment c'est une situation à risque ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent.
Et qu'est-ce que c'est de le vivre, cette situation, donc de dénuement le plus total? Donc là, il n'y a même plus d'habits, il n'y a plus rien, tu pars de zéro, zéro. Qu'est-ce que ça provoque en soi?
La première des choses, moi, quand on a eu cette idée avec Moutz, donc il y avait tout l'enthousiasme, parce qu'au début, on se disait « Ouais, viens, on part sans argent. » Puis l'autre « Ouais, viens, sans sac à dos. »« Ouais, viens depuis la nature. » »« Eh bien, on part juste avec un couteau, avec notre bite et notre couteau, tiens. » On avait décidé de prendre l'expression au pied de la lettre. Alors, on était tout contents, tout excités. Mais quand on s'est dit vraiment qu'on allait le faire, là c'était encore autre chose. Il y a commencé à avoir des peurs qui sont montées. Comment est-ce qu'on allait s'habiller? Comment est-ce qu'on allait être reçu par les gens? Beaucoup, beaucoup d'appréhension. Et la mendicité dans tout ça, comment est-ce que les gens allaient voir notre démarche? Donc moi, pendant un jour avant de partir, je me faisais des scénarios dans ma tête. Comment trouver des vêtements? Comment trouver de la nourriture? Et j'ai vite compris en fait que l'expérience dans laquelle on se lançait était quelque chose d'absolument nouveau pour nous, et pour appréhender le nouveau, l'outil de la pensée n'était pas vraiment adapté, parce que généralement quand on imagine quelque chose, ça se base sur ce qu'on connaît, mais là ça allait être totalement insolite. Donc il avait fallu un moment faire ce plongeon dans l'inconnu, et moi j'ai vécu ça avec beaucoup d'intensité, dans le sens où de passer de la peur où on s'imagine ce qui va se passer, à un moment où on fait totalement confiance et puis on vit ce qui se passe.
Donc c'est finalement, avec cette expérience, on peut amener à penser que la pensée est limitative. Il faut vraiment sortir du mental et là, tout est possible.
Ouais, il y a quelque chose comme ça. Après, la pensée est très utile hein, dans ces voyages, on l'utilise notamment.
C'est vrai que l'esprit nous conditionne et peut complètement nous limiter. C'est l'équilibre peut-être à trouver entre ce qu'on pense et ce ressenti intérieur.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que à un moment, si elle prend pas toute la place, la pensée, l'imaginaire, qu'on peut laisser aussi de la place pour une part un peu mystérieuse ou un peu laisser de la place à l'imprévisible, en fait, parce que tout ce que je pourrais imaginer de mon voyage, ce sera que des choses que je connais, mais le potentiel de la route, il est énorme, gigantesque, infini. Et l'idée de ces voyages, c'est de laisser de la place aussi à cette part mystérieuse et de se laisser surprendre. Et puis on remarque quand on se jette à l'eau, que ce soit tout nu et sans argent, ou que ce soit, je sais pas, chacun le vit à sa manière, quoi, quand on change d'emploi, quand on se sépare de sa compagne ou de son compagnon, quand on vit des grands changements de vie, souvent on a ce truc-là où on arrive dans l'inconnu et qu'on se relie à une ressource en nous qui est la confiance. Et ben à ce moment-là, parfois voilà, il se passe des choses surprenantes et c'est ça qu'on vient titiller dans ces voyages. Comme si on avait créé un laboratoire de la confiance en l'inconnu, de la confiance en l'inconnu dans les situations, mais en l'inconnu dans l'étranger, dans l'autre.
Donc oser affronter ses peurs et oser aussi le changement.
Ouais, bien sûr. Ces voyages pour nous, c'est que du mouvement, que du changement. À chaque instant, il faut qu'on se remette en question pour trouver à manger, pour trouver un hébergement, pour savoir si on peut aller dans telle direction, dans telle autre. Et c'est tout le temps du changement. Et ça permet aussi, pendant ces 2-3 semaines de laboratoire de voyage, de se familiariser, de côtoyer, de donner la main à ce changement perpétuel qu'on sent bien en voyage. Et parfois, quand moi je rentre chez moi, je peux ne plus trop être en lien avec ce changement parce que bah, y a les habitudes, il y a voilà, les choses qui ont un rythme. Et je crois que le voyage, comme il aiguise le regard sur le fait que si je suis attentif, les choses, elles sont tout le temps en changement aussi. Donc, le changement, ouais, c'est permanent dans le voyage et c'est source de beaucoup d'apprentissage.
Pourquoi tu choisis de vivre cette expérience, cette situation, ces situations ?
Ouais, je crois que j'adore découvrir, j'adore voyager. Voyager pour moi, c'est la découverte. Et découvrir, c'est enlever des couches. C'est se mettre à poil, bon, physiquement. Et puis, c'est aussi se mettre à poil à l'intérieur, remettre en question les croyances. Et voilà, rencontrer d'autres manières de penser aussi avec les gens qu'on rencontre. Et ça, je crois que ça dégage beaucoup de liberté à l'intérieur aussi pour voir le monde sous différentes facettes, sous différents angles.
Come in the likeness, in the image of God, 'cause you can be like that, with all that humbleness and all that respect. All of the power invested in me, be it hard to love my enemies. All of the black bags of the heads of the dead and dying. The more I understand about the human race, the less I comprehend about a purpose and place. And maybe if there was a clearer line, the curiosity would satisfy. Time best prophecies that kept me from living. In a moment I'm struggling to trust the divinity of all the gods and what the hell they have planned for us. I cried for the creatures who's left behind, but everything will change in a blink of an eye. And if you wish to survive, you find a guide inside. I go back and forth every single day. The clarity that comes to me in a trappy way. And use the feelings and the seasons change. The galaxies remain. Oh, energy feels from a body to space. The injured that are coming to a spiritual waste. And fallen man, wanna planet change burst. And fallen man, wanna planet change burst. In polar linen, we are on assignment. Bodies of consignment. Return them to the circus. And what is the purpose? Oh, what is the purpose? And would you believe it? Would you believe it? If you knew what you were for and how you became so informed. Bodies of info performing such miracle. I am a miracle made of a particle, and in this existence I stay persistent. I'll make a difference. I would have lived. Aloha, aloha, keakua, keakua, aloha, aloha, kuleana, kuleana. Each day that I wake, I will pray. Each day that I wake, I give thanks. Each day that I wake, I will pray. Each day that I wake, I give thanks.
Déjà, nous, à la base, on est ingénieurs avec Mout. Enfin, on a une formation d'ingénieur. Donc, on n'était pas prédestinés à travailler dans l'image, dans le son, dans la vidéo. Ce qui nous a amené à faire des films, c'est notre parcours après de voyageurs. Après les études d'ingénieur, on est parti voyager l'un et l'autre, 2 ans, en stop et chez l'habitant, en Amérique, chacun de notre côté. Et puis quand on est revenu en France, moi j'ai fait quelques petits montages, quelques petites photos que j'avais prises sur le chemin, mais comme tous les voyageurs, tu vois. On prend des petites traces, donc je les avais publiées sur Internet, puis j'aimais bien ça. Et puis j'ai eu envie d'aller plus loin dans le partage et j'ai écrit un livre qui s'appelle La Bible du Grand Voyageur et qui est un recueil de techniques pour voyager mieux avec moi, ce qu'on me disait. Et puis la suite logique, après les photos, l'écriture, bah c'était d'essayer de faire des films. Et en fait, au début, l'idée, c'était de faire un petit film de 5 minutes pour faire la promotion du livre. Et voilà, c'est ce film-là dans lequel on est parti tout nu pour la première fois, pour histoire de vivre toutes les étapes pour le vagabond, pour se déplacer, pour se nourrir, pour s'héberger. Et ce film-là finit sur le bureau d'une boîte de production. Et c'est eux qui, après, nous ont dit « Mais on peut faire des vrais films de 52 minutes, et si vous voulez, on part ensemble. » Donc nous, ça s'est fait sans vraiment qu'on le souhaite à l'origine. Mais après, quand on a vu cette opportunité à s'ouvrir à nous, on a dit « Ah ouais, carrément, ça nous plaît de partager ces voyages avec le support des films. » Et puis les diffuser à la télé, ça nous plaît bien.
On en parlait un petit peu hier, donc quand tu fais le choix de partir nu, c'est là que tu te rends compte, tu le disais avant aussi, on n'est pas indépendant, on est tous interdépendants. Donc quand on part nu, on est complètement dépendant de l'autre et donc il faut apprendre à formuler sa demande.
Ouais, c'est ça. Ça, c'était une grande étape pour nous, d'assumer notre vulnérabilité en fait. Parce que quand on est dans la nature, on est vraiment très vulnérable. Quand on est tout nu en plus et sans argent, on se rend compte qu'on est bien loin de notre agilité animale. Quand on regarde les animaux autour de nous qui semblent si naturels comme ça, gambader, nous on sent qu'on est comme deux gamins, mais deux enfants, des nouveau-nés en fait. On est hyper maladroit pour marcher, pour trouver notre nourriture, pour faire un feu, c'est laborieux. Et on a dû réapprendre ça et on a encore tellement à réapprendre. Quoi. C'est infini ce qu'on peut apprendre dans la nature. Et dans cette vulnérabilité, à un moment donné, quand on sort des bois et qu'on a besoin de manger ou de s'habiller, on a besoin de demander aux gens et on dépend beaucoup d'eux. Alors au début, ça nous met dans une position de mendicité qui n'est pas facile à assumer. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que c'est grâce à cette mendicité ou à cette demande qu'on va se mettre en lien avec l'autre. Et c'est presque un prétexte en fait pour trouver du lien avec les gens et et se découvrir en fait mutuellement. Et puis après, quand on continue à voyager comme ça, on se rend compte que non seulement ça nous permet d'être en lien avec l'autre, mais en plus, le fait de demander à l'autre, ça donne une opportunité à cette personne de donner. Et ce qu'on demande, c'est souvent des ressources qui sont en abondance. C'est des vêtements, tu sais, on a tous un t-shirt ou deux qui traînent dans l'armoire qu'on n'utilise plus, hein, comme chiffon, ou des pantalons troués. Donc la personne, ça lui coûte pas trop, à la limite, ça la libère d'un, voilà, presque d'un déchet. Et puis pour nous, ça nous fait plaisir. Et on a compris au bout de quelques années que, en fait, c'est un véritable bonheur de donner, bien plus grand encore que celui de recevoir. Donc nous, au début, on était gênés de demander, et à la fin, on se rendait compte que mais c'est une chance pour tout le monde, en fait. Et on a redécouvert l'expression « s'il vous plaît ». Quand on dit « s'il vous plaît », en fait, c'est « si cela vous fait plaisir, on serait ravis de recevoir ce cadeau ». Voilà.
On a parlé un peu hier du voyage, de Nuit Culottée, de ta vie d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois ta vie de demain ? Comment est-ce que tu imagines ton lieu de vie sur du long terme ? Comment est-ce que tu imagines, quelle est la cohérence que tu aimerais voir entre ton mode de vie et ce que tu seras d'ici quelques années ?
Bah, la cohérence, moi, elle se passe beaucoup dans le vivre ensemble, à co-construire une réalité, à co-construire des choix de vie. Là, tu vois, dans cet habitat partagé, moi, je me sens bien parce que voilà, je sens qu'il y a le potentiel du groupe qui me plaît. Et j'aime bien inviter davantage de sauvages dans ma vie, que ce soit ramener un peu de plantes comestibles, que ce soit un peu de potager, ou bien du sauvage aussi dans les relations, d'avoir des relations authentiques, quoi, qui viennent des tripes, ça me parle bien. Et pour moi, c'est une forme aussi d'écologie à ce niveau-là.
Qu'est-ce que c'est, le sauvage ? Amener du sauvage chez soi, c'est... Bon, je l'ai compris, mais explique-moi ce que tu entends derrière le mot sauvage.
Pour moi, ce qui est sauvage, c'est ce qui est brut, de ce qui est vierge, en fait, ce qui n'est pas encore trop transformé. Et cette brutalité, en fait, je la trouve magnifique. Pour moi, c'est par exemple, dans la relation humaine, c'est le sauvage, c'est la vulnérabilité, c'est ce qui est authentique, ce qui est fragile, ce qui est pur. La vie sauvage, c'est retourner dans la nature, c'est dans des endroits vierges qui n'ont pas été arrangés, organisés. Et où, du coup, finalement, inviter le sauvage chez soi, c'est accepter de se laisser organiser par le vivant, par la nature, et d'en faire partie aussi.
Je reviens à l'expérience du nu dans la nature, donc partir de rien, se rendre compte que c'est possible, déjà. Le fait d'avoir vécu cette expérience peut t'apporter ou a pu apporter aux autres aussi qui ont été témoins de cette expérience.
Dans ce qu'on nous a dit, hein. Je relate des retours qu'on a eus. Des gens qui ont regardé ces films souvent nous ont dit le fait qu'on soit parti tout nu, sans argent, pour aller réaliser des rêves, souvent des rêves de gosse, aller boire le thé avec un lord ou voir un druide en Bretagne, des choses comme ça. Le fait qu'on soit parti tout nu pour réaliser ça, ça leur a permis de se relier à leurs rêves aussi à eux. Et apparemment, dans ce qu'ils nous disent, quoi, c'est un grand soulagement de pouvoir croire en ses propres rêves. De se dire, ah, mais ce rêve-là que j'avais laissé de côté parce que je pensais que c'était trop fou, ou que c'était ridicule, ou que c'était pas possible, bah, en fait, peut-être que c'est pas si fou que ça et que je peux croire en ça. Et ça, ouais, ça, pour moi, c'est hyper précieux, en fait. Parce que souvent, dans nos rêves, il y a toutes nos utopies, il y a toutes nos... parfois des choses irrationnelles, mais parfois des choses très... très sensible. Et laisser ses rêves de côté, c'est aussi laisser notre sensibilité de côté. Et je crois qu'aujourd'hui, on a terriblement besoin de réinviter cette sensibilité, réinviter ses rêves d'enfant pour construire notre monde. Et voilà, donc ça, c'est un des retours qu'on a eu sur le fait que ça permettait de se relier à nos rêves. Et puis les rêves, c'est aussi notre énergie vitale, ce qui nous met en mouvement. Donc vivre une vie dans laquelle on sent qu'on est en train de nourrir des aspirations profondes, c'est souvent une vie dans laquelle on est porté, et c'est beaucoup plus joyeux, il me semble. Après, une autre chose, le fait de partir tout nu et sans argent, et du coup de dépendre des gens qu'on allait rencontrer, ça aussi, ça produisait une forme d'étonnement de la part des gens qui peuvent regarder ces films, ou des gens qu'on rencontre sur la route, qui nous disent, mais je pensais pas qu'il y avait tellement de personnes si généreuses autour de chez nous en France. Et souvent, les gens nous disent, mais merci, parce que ça nous a redonné foi en l'être humain. Et ça, pareil, je pense que c'est précieux de cultiver cette foi pour pouvoir construire ensemble et développer cette convivialité, cet art du vivre ensemble. Ouais. Une vie qui a du sens, pour moi, c'est une vie où je sens que les relations dans lesquelles que ça nourrit mes aspirations profondes et que ma vie puisse aussi contribuer aux aspirations des autres. Ça, c'est une vie qui a du sens.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.